Radio Éthique vous présente l'Éco-Radio d'Éco-Sapiens, le guide d'achat éthique. Donc Baptiste, l'actualité en ce moment est très dense, elle est aussi inquiétante. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce que l'on appelle aujourd'hui les gaz de schiste ?
Donc on parle des gaz de schiste là vraiment depuis février. Il faut savoir que l'existence des gaz de schiste est connue depuis à peu près un siècle, mais on les exploite vraiment aux États-Unis depuis à peu près un an ou deux.
En fait, ça s'appelle aussi le pétrole de schiste ?
Au départ, on est parti sur le gaz de schiste parce que il y avait un monopole, notamment russe, et du coup, les États-Unis ont décidé de se lancer dans la course aux gaz de schiste qui sont sur leur territoire pour des raisons d'indépendance énergétique. Il se trouve qu'effectivement, à 2 km sous la roche terrestre, on trouve du gaz de schiste, du pétrole de schiste et de l'huile de schiste. En France aujourd'hui, les permis de gaz de schiste concernent les fameux permis du côté de Montélimar, tandis que les huiles de schiste sont plutôt en région parisienne et dans l'est de la France.
Et quels sont les inconvénients de l'extraction donc de ces gaz ou de ces huiles ?
Alors aujourd'hui, la seule méthode qu'on ait trouvée pour extraire ces gaz ou ces huiles de schiste consiste en ce qu'on appelle la fracturation hydraulique. Il faut savoir que pour les gaz conventionnels, il suffit vraiment de mettre une sorte de paille et puis hop, on récupère la poche de gaz. Pour les gaz de schiste qui sont piégés dans les schistes argileux, il faut effectivement fracturer la roche pour ensuite récupérer dans des micro-tuyaux toutes les bulles emprisonnées de gaz. C'est très compliqué, d'autant qu'on s'est aperçu qu'il n'était pas impossible que les produits qu'on injecte et le gaz lui-même peuvent, par capillarité, arriver dans les nappes phréatiques.
Quelle est l'expérience des pays qui exploitent déjà ces gaz ?
Alors aujourd'hui, on a des gros retours donc sur les États-Unis, hein, donc qui exploitent les gaz de schiste donc vraiment depuis 2 ans, un petit peu au Canada aussi. Il y a beaucoup de cas de fermes là-bas où l'eau devient non buvable. Elle est déjà trouble, elle s'enflamme à la sortie du robinet. C'est un peu l'image choc qu'on voit sur le documentaire Gasland, qui a d'ailleurs été nominé aux Oscars récemment. Bon voilà, il faut savoir qu'il y a à peu près 600 produits chimiques différents injectés lors de cette fracturation hydraulique. C'est pas sans danger sur la santé humaine.
Mais est-ce qu'on a vraiment le choix ? Le jour où il y aura plus de pétrole, il faudra bien passer au gaz de schiste, à moins que finalement on reste à l'énergie nucléaire.
Alors voilà, c'est toujours le même dilemme, nucléaire ou pétrole. Je pense que c'est pas anodin si en France on commence à prospecter le gaz de schiste. C'est parce qu'effectivement on va rentrer dans une période où l'énergie va être de plus en plus cher. Il faut toujours se dire que du pétrole ou du gaz, il y en aura toujours. Par contre, du pétrole bon marché ou du gaz bon marché, là, effectivement, on est sur des échelles de 30, 40, peut-être 50 ans. Donc, le fait qu'on commence déjà en France à vouloir, en quelque sorte, mettre en l'air, enfin vraiment saccager le sous-sol pour extraire les dernières gouttes de gaz disponibles, c'est très révélateur sur la crise énergétique qu'on connaît actuellement.
Alors, vous proposez sur EcoSapiens comment sortir avec élégance du nucléaire ?
Nous, notre idée, c'était de dire, voilà, on n'est pas condamné au choix du gaz de schiste pour extraire les dernières gouttes. On n'est pas non plus contraint de rester sur le nucléaire. D'ailleurs, la question des réserves d'uranium, sont la même que pour le pétrole. On ne pourra pas faire du nucléaire un modèle rentable ou durable. Mm-hmm. Il se trouve qu'effectivement, en France, on est le pays le plus nucléarisé au monde, et ce qui fait qu'on a du mal à admettre que le nucléaire est une énergie avec beaucoup d'inconvénients. La catastrophe de Fukushima nous rappelle à l'évidence un pays aussi évoluer que le Japon peut finalement rencontrer une catastrophe incroyable. Hein, je veux dire, tout ce qui se passe au Japon, je pense qu'on aura un peu plus de visibilité, nous compris, hein, on ne sait pas tout, d'ici un mois ou deux quand on aura les vrais relevés. Voilà, on voulait sortir de cette problématique.
Est-ce qu'il y a une solution ? Donc il y a un scénario négawatt ?
Le scénario négawatt permet justement de... n'est pas du tout un scénario antinucléaire comme on pourrait le croire. Négawatt est une association qui existe depuis 10 ans, que l'on suit depuis le début avec EcoSapiens, par copinage, parce que ce sont aussi beaucoup d'ingénieurs, mais pas que ça, il y a aussi des sociologues. C'est une génération qui a essayé de scientifiques majoritairement, qui a essayé de prendre toutes les données brutes en termes d'énergie et donc de savoir si on pouvait faire un scénario de transition énergétique pour effectivement arriver pour le même confort à finalement une énergie qui soit non polluante et non dangereuse comme l'est le nucléaire.
Et c'est possible ?
C'est possible, c'est long, c'est en même temps très contraignant d'un point de vue politique. Alors leur scénario finalement remplit les objectifs du paquet climat-énergie qui consiste à dire que d'ici 20 ans, il faut avoir 20% de gaz à effet de serre en moins, 20% d'efficacité énergétique et 20% donc d'énergie renouvelable. Je ne vous cache pas que c'est une autre politique que toutes celles qu'on a pu mener, notamment en France récemment. Voilà, on peut tout à fait, en tout cas, réduire notre consommation. Il y a déjà à peu près 30% de gisements, ce qu'ils appellent le négawatt, c'est-à-dire d'énergie qu'on n'a pas besoin de consommer, on va dire pour faire simple gaspillage. Ça fait déjà 30% d'énergie en moins consommée. Sur ce qu'ils appellent la maîtrise de l'énergie, on peut aussi faire des économies donc de 20% d'énergie. Typiquement, voilà pourquoi, au niveau des veilles, des appareils électriques, par exemple. Mais bien sûr au niveau de l'isolation des bâtiments, majoritairement d'ailleurs au niveau de l'isolation des bâtiments. Et enfin, les énergies renouvelables. Mais tout ça vient à la fin dans le scénario Nagawatt. Or, peut-être qu'on a trop tendance, en général dans l'écologie, à vouloir absolument mettre en avant le photovoltaïque, l'éolien, qui sont des solutions. Mais d'abord, sur ce gaspillage, et faut mettre le paquet sur l'efficacité énergétique.
Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut se rendre pour en savoir plus?
Alors sur le site de Negawatt, on trouvera quelques documents pas forcément accessibles ou lisibles pour le grand public sur en quoi consiste exactement le scénario énergétique. Je vous invite à aller sur EcoSapiens, parce qu'on a mis un lien vers un diaporama proposé par Negawatt lors d'une conférence qu'ils avaient donnée à l'Assemblée nationale, qui résume vraiment en 50 diapositives, point par point, tous les axes électricité, mobilité, chauffage, enfin tout ce qui concerne l'énergie, ben voilà, détaillé point par point et comment on sort petit à petit. Eux, ils font une estimation, on va pas sortir du nucléaire en France du jour au lendemain et ça prendrait à peu près une quarantaine d'années, tout est calculé.
Très bien, je vous remercie beaucoup, Baptiste. Vous venez d'écouter l'éco-radio d'EcoSapiens. Retrouvez le guide d'achat éthique en ligne sur www.eco-sapiens.com.